bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Business Club. Aujourd'hui, on accueille l'un des fondateurs de l'association Virtus, qui est également CEO de l'agence Six Sport Management. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Très bien, merci.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de parler plus en profondeur de tes projets, etc., je vais te demander de revenir sur ton parcours jusqu'à présent.
Oui, alors écoute, moi je viens du sud de la France, sud-est de la France, à côté de Toulon, où j'ai grandi dans une terre de rugby. Donc voilà, okay. Mon premier rapport au sport depuis que je suis jeune. J'ai fait mes études là-bas dans le secondaire, puis je suis parti en classe préparatoire à Grenoble, au lycée Champollion. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai intégré HEC Paris, donc l'école de commerce. Là-bas, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au milieu du sport business, à le découvrir et à avoir différents projets. J'ai commencé à écrire beaucoup. J'ai écrit sur le rugby, la géopolitique du rugby. Puis mon dernier livre sur le rugby à 7 est sorti en mai dernier. Il s'appelle Une histoire de Sevens. Et de là, voilà, j'ai commencé à mener des projets dans le sport avec le Racing 92. Je suis parti en stage chez Havas Sport et Entertainment. Okay. Et puis, en dernière année, j'ai cofondé Virtus, du coup, qui est un salon à la fois de recrutement pour les étudiants des grandes écoles dans le monde du sport et un cycle de conférences et d'activités autour du sport engagé, donc aussi bien sur les enjeux d'éducation, d'inclusion, d'environnement que de santé. Donc voilà, en bref, on a fait ça sur 2 jours, la première édition en octobre dernier.
Ok. Et ta volonté de t'orienter vers le sport business, elle est née à partir du moment où tu as intégré HEC ou ça a toujours été ta volonté ?
À l'origine, j'étais vraiment beaucoup plus axé sur la culture. Je voulais vraiment faire travailler dans le théâtre ou dans le cinéma. Et puis en fait, c'est venu de rencontres au fur et à mesure. Vraiment, le jour où j'ai commencé à travailler avec le Racing 92, grâce à un cours que j'ai eu à HEC, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je voulais vraiment travailler dans le sport et plus précisément dans les clubs de sport professionnels. Okay. Donc c'est venu de là. Et puis c'est vrai qu'à HEC, on n'a pas, contrairement à d'autres écoles, un vrai parcours sport business. C'est vrai que l'ESSEC peut avoir ça, par exemple. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir la carte de visite HEC qui nous ouvre beaucoup de portes et nous permet de faire un peu ce qu'on veut derrière. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde et voilà, continuer ce chemin petit à petit en posant pierre par pierre.
Tu parlais de ton premier amour, le rugby, et que tu as pu travailler au Racing Club 92. Est-ce que toi, tu t'ouvres à d'autres sports ?
Bien sûr, j'ai un goût plus prononcé pour les sports collectifs, ça c'est évident, mais je suis vraiment intéressé par tous les sports et je pense que j'ai une mentalité un peu franco-française aussi quand même, okay. Contrairement à beaucoup de gens de ma génération qui peuvent être vraiment attirés par la NBA, la MLB ou autre. Je pense que moi, j'ai un goût pour ces clubs qui représentent un terroir, tout ça, donc c'est des choses qu'on trouve vraiment beaucoup dans le hand, dans le basket, dans le foot, dans le rugby. Et voilà, c'est, je suis assez ouvert à tous les sports, mais c'est vrai que mon premier amour, c'est le rugby, et j'en fais encore beaucoup aujourd'hui. Donc
okay. Tu nous as parlé des ouvrages, des différents ouvrages que tu as pu écrire. À quel moment tu as eu le temps d'écrire ces ouvrages?
Alors, je vais dire quelque chose que je ne dis pas souvent, mais en fait, la première fois où je me suis mis à écrire sur le rugby, c'est... J'étais rentré chez moi en rentrant de prépa, donc j'ai fait ma prépa à Grenoble et j'habite dans le Var, donc je suis rentré, j'avais plus grand monde, hein, parce que quand on part en prépa, on coupe pas mal de ponts avec beaucoup de monde, et donc je me demandais déjà d'une part quoi faire pour occuper mon été, et d'une autre, je me suis cru un peu plus malin en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire qui peut me permettre de me rapporter 4 sous l'année prochaine pendant que je serai étudiant pour pouvoir aller picoler, alors que j'ai pas envie de travailler pendant que je suis étudiant. Donc je me suis dit, autant mettre à profit cet été, c'était le moment de la Coupe du Monde de football qui venait de se finir.
Okay.
Et Pascal Boniface, qui est un auteur, un géopolitologue, avait écrit sur la géopolitique du football. Il s'avère qu'en prépa, je me suis vraiment pris d'amour pour cette matière qu'est la géopolitique. Okay. Donc la géopolitique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'étude des relations internationales, comprendre les conflits, comprendre les rapports entre les pays, etc. Et du coup, donc c'est un terme qui est de plus en plus fréquent, je pense, dans les médias aujourd'hui, et c'est assez intéressant de le voir. Mais du coup, ce jour-là, je me suis dit, bon, Et si moi aussi j'étudiais un peu la géopolitique du rugby, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très différentes du football. Et j'ai commencé à écrire là-dessus, et voilà, pendant 2-3 mois j'ai beaucoup beaucoup écrit là-dessus, jusqu'à voilà, jusqu'à ma rentrée à HEC, puis j'ai sorti ce premier ouvrage qui était, je pense, qui avait des bonnes idées, mais qui est quand même assez médiocre d'un point de vue littéraire, on va dire ce qu'il en est. Mais du coup, voilà, c'était vraiment un bon projet pour commencer là-dedans.
Mais du coup, au final, tu arrives à en faire quel bilan de ces différents ouvrages ?
Alors, le premier, je pense que c'était une bonne chose, c'est-à-dire une bonne erreur de jeunesse, disons. C'est-à-dire, voilà, quelque chose d'un peu bâclé trop vite, si j'ose dire. On a envie de rendre la copie, absolument, parce qu'on est fier de ce qu'on a fait et parce qu'on pense qu'on a des super idées qui vont éclairer des gens. Je pense que ces super idées, il n'y a pas grand monde qui les a lues, malheureusement. et du coup, ça m'a vraiment permis de me lancer pour travailler sur le deuxième ouvrage qui était sur le rugby à 7, donc une histoire de Sevens, qui lui est du coup beaucoup plus poussé. J'ai pris beaucoup plus de temps de le faire. J'ai travaillé 3 ans dessus avec beaucoup, beaucoup de gens de l'univers du rugby à 7. Et je pense que j'en ai fait un projet bien plus abouti, ce que j'aurais pas été capable de faire si j'avais pas fait ce premier ouvrage un peu bâclé et plein d'erreurs, si j'ose dire, la première fois. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis après, je pense que d'un point de vue professionnel, ces ouvrages ont été vraiment un atout pour moi, parce que à la suite de Géorugbystique, donc mon premier sur la géopolitique du rugby, je suis parti en stage chez Terre en Mêlée, qui est une association qui utilise le rugby à des fins de développement et d'émancipation féminine en Afrique. Et de là, en fait, j'ai commencé à rencontrer du monde dans le rugby à 7, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire sur le rugby à 7. J'avais commencé juste un peu avant, mais voilà, ça m'a vraiment lancé dans le sujet. Et puis, ça m'a du coup permis déjà d'avoir cette première expérience avec Terre en Mêlée, à qui je donnais une partie de mes revenus de droits d'auteur. Et ensuite, c'est voilà, de fil en aiguille, cette expérience du livre m'a permis d'avoir cette expérience professionnelle, qui était quand même... Donc j'étais jeune, j'étais en première année d'HEC à l'époque, donc j'avais aucune expérience, et qui après, du coup, a pu être valorisée dans le cadre d'aller chercher d'autres stages, etc. Surtout, je me suis retrouvé à chercher des stages de césure pendant la crise du Covid. Et donc, c'était très compliqué, même si on sort d'HEC. Et du coup, je pense que c'était un vrai atout d'avoir fait ça et de pouvoir démontrer qu'on avait une capacité à mener des projets.
Ok. Et comment ça a été perçu dans ta formation, le fait que toi, tu aies déjà ce bagage-là ? Peut-être on parle des grandes écoles, souvent comme un milieu très concurrentiel. Comment ça a été perçu
Non, je pense que c'est pas... Enfin, chacun, en fait, ce qui est vraiment beau, si j'ose dire, dans le milieu des grandes écoles, c'est qu'on est entouré que de profils qui font des choses plus folles que ce que nous on fait. donc là où moi j'ai écrit 2 livres, il y en a qui ont créé des associations, qui ont créé des entreprises, qui ont créé plein de choses, qui font des podcasts, qui ont un média. Enfin voilà, donc je pense que c'était intéressant parce que beaucoup de gens, du coup... trouver un peu de l'inspiration dans les autres, et donc moi j'ai trouvé de l'inspiration pour mener mes projets chez d'autres personnes, et d'autres en ont trouvé chez moi, je pense. Mais c'est vrai que je vois ces projets-là, je les ai menés parce que j'avais la confiance de le faire, et je pense que c'est quelque chose qui nous est aussi apporté par ce monde des grandes écoles, où souvent ces slogans sont un peu bullshit, HEC c'est apprendre à oser, mais je pense qu'en fait on nous donne conscience du fait que finalement l'échec il a peu de chances d'arriver quand on est bien préparé, et nous on sait se préparer et prendre le temps de réfléchir à ça. Et ça c'est quelque chose qui m'est important pour du coup mes activités professionnelles actuelles, notamment avec Virtus ou avec mon entreprise Six Sports Management.
T'as aussi cofondé l'association Virtus. Comment t'as été amené à créer Virtus ?
Alors en fait, il y a une personne au service des sports d'HEC qui s'appelle Jérôme Flamier, qui m'avait accompagné déjà dans les projets que j'avais menés avec le Racing 92. Donc vraiment, il avait eu un apport pédagogique, je pense. Son objectif, c'était vraiment de m'aider à me former au maximum grâce à ses projets. Et donc il a été vraiment un vrai soutien là-dessus. Et un jour, il est venu me voir en me disant « Écoute Antoine, je t'ai beaucoup aidé, je pense, sur ces projets-là, et aujourd'hui j'ai une autre élève à aider un peu de la même manière, et elle lance un projet qui s'appelle Virtus. L'idée c'est de partir d'un tournoi de tennis qui existait déjà à HEC, qui s'appelait le Monte Carlo, qui se passait au Monte Carlo Country Club, qui s'appelait le HEC Clay Court Challenge, et c'était un tournoi entre écoles des grandes écoles européennes. Le constat c'était que c'était un tournoi qui coûtait cher, qui était très prestigieux, mais qui pouvait être un peu développé grâce à des étudiants. Et donc cette jeune fille, Lou Adler, si je veux dire jeune fille, cette étudiante, Lou Adler, elle, elle réfléchissait à comment améliorer ce projet. Et donc, Jérôme m'a demandé de venir sur ce projet, de l'accompagner. Et c'est vrai que je me suis pris vraiment au jeu, aussi bien de réfléchir à ce projet que, avec Lou, je pense qu'on s'est très bien entendu. Jérôme nous a beaucoup aidé aussi là-dessus. Et on a commencé à monter ce projet de A à Z en réfléchissant à quelles seraient en fait les bonnes pistes pour faire évoluer ce tournoi. Donc je me permets d'avancer un peu là-dessus, mais je pense que c'est important. Virtus, en fait, on est parti du principe qu'on avait des constats à faire sur le sport business et le sport engagé dans le milieu des grandes écoles, en tout cas. Le premier, c'était que nous, en tant qu'étudiants des grandes écoles, c'est compliqué pour nous d'avoir accès à l'emploi dans le monde du sport. C'est complètement lié au fait qu'en fait, d'une part, le secteur de recrutement du sport, quand il y a un salon de recrutement sport business ou autre, il n'est pas monopolisé, mais il y a beaucoup plus d'étudiants qui sortent d'écoles spécialisées du sport du business, sport, par exemple, qui viennent et qui, du coup, ont beaucoup d'offres qui leur sont adaptées. C'est vrai que les clubs ne recherchent pas forcément des stagiaires en stratégie ou en data science ou autre au quotidien, quoi. Donc c'était compliqué pour nous d'avoir accès à ces offres-là. Donc on s'est dit que d'une part, on avait une responsabilité dans l'accompagnement des étudiants pour entrer dans le sport business en allant chercher ces entreprises du sport et en leur disant, voilà, on va monter un salon où il n'y aurait uniquement que des étudiants des grandes écoles. Okay. Et donc vous allez devoir adapter vos offres à ça, mais du coup, vous n'aurez que des profils adaptés à ça aussi. Donc il n'y aura pas cet aspect un peu, concurrentiel entre est-ce qu'on met en avant des offres où il y aura plein d'étudiants pour ça, ou est-ce qu'on va aussi mettre en avant, je ne sais pas, notre directeur de la stratégie pour trouver une personne, et il n'y aura peut-être que 5 profils dans la journée qui correspondent. Donc ça, c'était le premier constat sur lequel il fallait vraiment qu'on travaille, donc faire venir des entreprises pour recruter dans le secteur du sport des étudiants des grandes écoles. Le deuxième, c'était que les étudiants, ils ont vraiment envie de s'engager aujourd'hui, je pense. Il y a une vraie prise de conscience écologique, sociale, qui, je pense, ne laisse personne de marbre. Et cette prise de conscience, c'est aussi que les jeunes ont envie de travailler dans un métier, enfin, d'avoir un métier qui donne sens. Et donc, de vraiment travailler dans quelque chose qui va au-delà de la simple productivité ou la simple production de quelque chose, mais qui a aussi un impact positif sur l'environnement, sur la société, etc. Donc on s'est dit que d'une part, on allait aller chercher des entreprises qui étaient vertueuses, si j'ose dire, d'un point de vue RSE. Et d'une autre, on allait développer un autre aspect du salon qui était de sensibiliser les étudiants aux enjeux RSE via le sport. Donc on a créé tout un cycle de conférences autour de ça, et même des ateliers supplémentaires, donc un cycle de conférences sur les 5 sujets que j'ai évoqués précédemment, donc le sport inclusif, le sport et l'environnement, le sport santé, le sport social, et puis l'héritage du sport un peu dans son ensemble, un sujet transverse. Et on a rajouté à ça des activités qui étaient, par exemple, des initiations au volet inclusif, qui est un volet qui se joue en fauteuil roulant, et aussi bien pour les valides que pour les handicapés. Des initiations, par exemple, à la nutrition sportive ou à l'ostéopathie. Donc, en fait, on a créé un projet global à partir de ces 2 constats-là. Le troisième étant, en fait, troisième constat, c'était que, du coup, on peut s'engager et travailler en même temps dans un secteur qui nous passionne. Donc, c'était l'idée de réunir ces 3 réponses via 2 journées au stade Roland-Garros et avec le tournoi de tennis qui continue à se dérouler en parallèle, parce que c'était quand même l'objectif initial.
Et quelles ont été les principales difficultés à la création de ce salon ?
Je pense que la première difficulté, et c'est celle qu'on sous-estimait le plus, c'est que nous, entre nous dans l'organisation, on avait l'impression que beaucoup de gens étaient intéressés par l'univers du sport. Et je pense que dans les grandes écoles, c'est un sujet. Beaucoup, beaucoup de gens aimeraient travailler dans le sport. Mais peu de gens se disent qu'ils ont un avenir professionnel dans le sport. Et que je pense que d'une part, c'est parce que quand on nous propose des salaires... je pense décorrélé de la réalité quand on sort des grandes écoles, on a du mal à se dire pourquoi j'irais gagner 4 fois moins pour un sujet qui me passionne alors que je peux très bien faire ça dans 15 ans et racheter un club si j'ai envie. Je vulgarise et j'exagère, mais je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Je le vois par exemple dans l'association des alumni d'HEC Sport Business. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'intégrer parce qu'ils aimeraient, ils ont 40, 45 ans, ils aimeraient se réorienter vers le sport business maintenant qu'ils ont une situation stable, etc. Donc ça, c'était la première problématique, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, il y aura beaucoup de gens, on a limité à 15 écoles pour venir, les 15 plus grandes écoles selon nous, et en fait, ben, voilà, il y a eu très peu de visiteurs, d'une part. D'une autre, on a eu vraiment beaucoup de mal à communiquer, je pense, sur l'événement, et on a eu, ben, manque de chance, c'est tombé en même temps que la journée paralympique aussi. Donc je pense que ça nous a fait beaucoup d'ombre sur le sujet, et ça nous a pris aussi beaucoup d'intervenants. Mais je pense que voilà, c'était les principales problématiques qu'on a eues.
Sur le site, vous mettez en avant le fait que le sport soit un secteur un peu mis de côté par les étudiants des grandes écoles. Mais là, tu as beaucoup mis en avant l'aspect pécunier, on va dire. Mais est-ce que c'est le seul aspect?
Non, pas du tout. Ben, le second aspect, c'est celui auquel on essaie de répondre, c'est que les entreprises du sport ne s'intéressent pas aux étudiants des grandes écoles non plus. Ne serait-ce que parce qu'ils savent qu'ils sont pas en mesure de leur proposer des salaires
Les salaires, on ne sait
avantageux.
pas.
Donc, je pense que c'est un peu un cercle vicieux auquel nous on essaie de répondre, ne serait-ce que par le stage en fait. Le stage, je pense que c'est très intéressant parce que des gens qui, comme moi, vont venir faire des stages dans le sport, déjà vont sans doute avoir plus de chances de pouvoir travailler dans le milieu du sport par la suite, parce qu'il faut quand même des expériences. Et d'une autre, ils vont contribuer à faire en sorte que ces entreprises, elles prennent conscience de la valeur ajoutée des étudiants des grandes écoles. Enfin, voilà, après, le sujet pécunier reste toujours évident. Moi, je parle à titre personnel, j'ai un emprunt de 50 000 euros pour avoir financé mon école. Aujourd'hui, bah, il faut aussi être capable de le rembourser. Donc, ça fait faire des choix de vie. Mais je pense que c'est les deux principaux sujets sont là. C'est que d'un côté, on s'intéresse aussi à avoir une rentabilité de l'investissement qu'on a mis dans cette école-là et les années de prépa aussi, qui ont souvent été un investissement pour des gens. Et de l'autre côté, avoir bah, des entreprises du sport qui. Bah, qui soit en mesure de répondre à ces attentes-là. Et puis, je me permets de rajouter aussi que c'est souvent les entreprises du sport, donc je parle pas forcément des sportecs ou autres, mais par exemple les clubs de sport sont pas gérés par des personnes qui sortent des grandes écoles. Contrairement en fait à des cabinets de conseil ou autres, et du coup il n'y a pas ce sentiment d'avoir une réciprocité en fait où on est dans une communauté. Bien évidemment les étudiants des grandes écoles, moi je sors de grandes écoles aujourd'hui et si je dois recruter, je vais principalement recruter quelqu'un qui sort des grandes
Des
écoles
grandes
parce que je
écoles.
comprends son parcours, parce que je le connais, je sais ce qu'est loin de ses capacités, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes, des managers de clubs qui sont souvent aussi d'anciens sportifs de haut niveau et qui n'ont pas du coup les mêmes repères que
Critères,
moi.
ouais. Et est-ce qu'il y a une volonté de pérenniser ce salon? Enfin, comment aujourd'hui, c'est quoi le bilan du salon Virtus? Et est-ce qu'il y a l'idée de le pérenniser?
Le bilan, je pense qu'il est très positif, dans le sens où toutes les personnes qui sont venues, d'une part, ont été ravies de tout ce qu'elles ont pu y apprendre et les personnes qu'elles ont pu rencontrer. On a eu beaucoup d'entreprises du sport, donc 26 entreprises du sport qui ont répondu présent pour venir recruter, malgré le fait qu'il y ait eu finalement peu d'étudiants. On a eu voilà, beaucoup d'intervenants qui se sont sentis honorés aussi d'être invités par des étudiants des grandes écoles, et notamment à l'époque, le salon était encore sous le nom d'HEC Paris, de représenter leurs idéaux devant les étudiants d'HEC. Donc je pense que ça, c'était vraiment positif. Aujourd'hui, on a pris la décision de sortir Virtus d'HEC parce que je pense que c'est un projet qui est plus gros qu'un projet étudiant, classique en tout cas. Donc c'est un vrai projet. On monte une association qui se structure aussi bien autour de ce salon que de deux autres piliers qui sont de créer en fait un réseau d'étudiants qui, enfin de jeunes cadres et étudiants qui ont envie de s'engager pour le sport, de partager des moments de réflexion. D'une part, et surtout des moments d'action ensemble, de proposer quelque chose de concret à agir. Donc c'est une session qui n'est plus intégrée à HEC, qui est ouverte à tout le monde. Notre troisième pilier, c'est en fait voilà, la volonté qu'on a de sensibiliser l'environnement, la société, etc. via le sport. Cette approche-là, elle doit aussi passer par des partenariats avec d'autres organisateurs d'événements qui ne sont pas que nos événements. Et donc, on veut les accompagner dans justement s'ils veulent créer un cycle de conférences sur un événement sportif, qu'ils soient étudiants ou non. Nous, on vient pour ajouter ce critère qui est peut-être plus corporate autour de l'environnement, etc., mais qui se combine très bien avec le sport. Donc aujourd'hui, le principal projet qu'on a, c'est le salon Virtus. On va le refaire tout simplement cette année. Donc ce sera le 17 et 18 mai au Grand Palais Éphémère. On le monte dans un projet plus grand qui s'appelle les Journées de l'héritage sportif. Ces journées de l'héritage sportif, l'idée c'est que on ouvre en fait le sport comme un moyen d'échange entre tout le monde. Avec Virtus, on va être responsable de créer de la même manière notre salon de recrutement, comme l'année dernière avec les entreprises du sport et les étudiants des grandes écoles. On va ouvrir à plus d'écoles cette fois-ci. Je pense qu'on va prendre toutes les écoles de la conférence des grandes écoles, donc 52 écoles. L'idée, c'est de continuer à garder cette relation entre les étudiants et les entreprises du sport. On va rajouter un salon, je parle dans le cadre du projet, il y aura aussi un salon qui est à destination des entreprises sponsors, principalement du sport, avec la volonté de leur permettre d'utiliser le vecteur du sport qu'elles utilisent au quotidien pour leur communication dans le cadre de leur image de marque, marque employeur, pour venir recruter des étudiants d'une part et des demandeurs d'emploi d'une autre. Donc c'est très intéressant parce que si on prend les sponsors olympiques par exemple, le groupe BPCE ou PwC, qui sont des entreprises donc, de la banque et du conseil, de l'audit plutôt même, sont beaucoup plus intéressés par des étudiants grandes écoles, un peu comme nous on pourrait avoir sur Virtus, tandis que EDF par exemple ou Orange va aussi avoir besoin de recruter des techniciens. Donc pour ça, ce salon de recrutement sponsor, si j'ose dire, il est aussi co-construit avec des associations comme la Ligue des Jeunes Talents qui font venir des demandeurs d'emploi. Donc la Ligue des Jeunes Talents, par exemple, c'est du 93, qui justement peuvent utiliser le sport pour essayer de s'insérer dans l'emploi grâce à ce vecteur-là. Donc notre idée du projet, elle est là-dedans, sur la partie recrutement. Il y aura aussi une vraie partie conférence, comme nous on avait fait sur Virtus. On gardera notre scène pour les étudiants de Virtus et les étudiants des grandes écoles autour des, donc avec 5 conférences sur les 5 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, toujours autour de la RSE. Il y aura une grande scène avec des grands noms qui devraient venir. On a aussi une autre scène qui sera peut-être plus dédiée au sport business qu'on envisage, avec la possibilité pour les sponsors de présenter aussi leur activité et puis potentiellement des pitchs de Sportech ou autre. On essaie de travailler avec des acteurs du monde du sport. L'idée, c'est vraiment de co-construire un événement avec divers acteurs du monde du sport, aussi bien des associations que des entreprises, que des réseaux d'entreprises. Tout ça, ce sera... J'ai vraiment parlé du côté corporate parce que c'est nous celui sur lequel on travaille le plus avec Virtus, mais ça s'inscrit en fait dans un vrai projet de développement de la pratique sportive et de découverte des sports olympiques notamment. Et donc on aura beaucoup d'activités aussi bien...
Quel type d'activation par exemple on pourra trouver sur cet aspect-là ?
Il y aura des activités qui seraient un peu du style des activations de la part de sponsors olympiques ou autres. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple complètement fictif, mais peut-être Decathlon qui ferait une initiation tech ball, donc ce ping-pong avec un ballon de football par exemple, ou autre. On pense à créer un playground au milieu du Grand Palais pour venir s'initier soit au basket 3-3, soit peut-être on mettra une piste d'athlétisme. L'idée, c'est vraiment de montrer, de faire une fête du sport et qu'elle puisse profiter de tous ces aspects corporels. Donc là, je parle vraiment de la journée du mercredi 17 mai. Et le jeudi 18 mai, qui est le jeudi de l'Ascension, là, notre envie, c'est de créer un moment d'échange familial autour du sport. De faire venir les familles, que les parents fassent du sport avec leurs enfants. Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé de faire de l'escrime, d'essayer l'escrime. J'ai jamais pu le faire, donc j'espère que là-bas, j'aurai peut-être un athlète pour me faire découvrir l'escrime. Donc normalement, on aura beaucoup d'athlètes qui viendront faire des initiations de chacun de leurs sports. J'espère que le breakdance sera là parce que c'est la grande nouveauté de Paris 2024 aussi. Tous ces sujets-là, il va falloir les adresser. Et dans l'idée, on veut aussi garder cet impact un peu social, permettre aux gens, on l'avait fait l'année dernière, d'avoir des initiations à l'ostéopathie par exemple, à la nutrition, travailler là-dessus et puis permettre aux jeunes qui envisageraient potentiellement ou qui ont le rêve de devenir sportif de haut niveau, de rencontrer des sportifs de haut niveau, de prendre un moment d'échange, de comprendre, donc c'est encore des choses qu'on va co-construire peut-être avec l'ANS ou l'INSEP ou autre, de prendre un moment pour comprendre quels sont les enjeux du sport de haut niveau et de comment on peut y arriver et puis quelles sont les difficultés aussi, sensibiliser potentiellement au danger du pari sportif, c'est quelque chose qui est important, et puis à l'impact du pari sportif aussi sur les athlètes, qui est un autre sujet qui nous tient à cœur chez Virtus. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place, toujours dans cet aspect pratique sportive, divertissement et en même temps impact du sport, si j'ose dire.
Le message est passé. Je vais revenir un peu plus sur toi et ta double casquette. Donc, tu nous as beaucoup parlé de Virtus, mais tu as aussi fondé ta propre agence. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton activité avec
donc,
ton agence
donc, maintenant, je suis président de Virtus, mais c'est vrai que c'est une activité associative. Et à côté, j'ai monté mon cabinet de conseil. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, les clubs de sport professionnel, d'une part, ils manquent de cette expertise, je pense, qu'on a dans les grandes écoles, autour de la structuration, de la capacité à prendre de la hauteur, de créer des stratégies, tout ça. Et puis, ils font aujourd'hui un vrai travail identitaire. Je pense que c'est vraiment la mode. On le voit ne serait-ce qu'avec tous les maillots qui reviennent de... moi, je suis très rugby, donc par exemple, Toulon, Toulouse et le Racing, cette année, ils ont des maillots old school. Donc, pour revenir sur un titre qu'ils ont eu dans les années 80 ou 90... donc il y a ce travail de comprendre où est son identité et la mettre en avant. Aujourd'hui, moi, je pense que l'identité des clubs, ce n'est pas qu'un outil marketing. De tout temps, un club, ce qu'il a vendu, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. N'importe qui suit un club, non pas parce qu'il connaît les 15 joueurs ou autre, mais parce que, en fait, les gens qu'il aime autour de lui suivent aussi ce club. Et le club, c'est un endroit où on peut se retrouver. Et donc ça, c'est aussi bien pour le club amateur que pour le club professionnel qui va rameuter des millions de personnes, et que n'importe quel pays que ce soit. L'idée, c'est d'avoir une passion commune, etc. Et je pense que du coup, pour représenter au mieux cette communauté, l'identité du club, ça ne doit pas être qu'un outil marketing, ça doit être aussi une manière de manager ses équipes, une manière d'organiser son équipe, de recruter. Je pense par exemple à l'exemple du Rugby Club Toulonnais qui a, si j'ose le vulgariser, une nouvelle identité où ils parlent du fait qu'ils sont des gladiateurs et non pas des joueurs de rugby dans une arène et non pas un stade. Mais je suis complètement d'accord, je trouve que ça colle vraiment à l'identité du rugby club toulonnais que je suis depuis que je suis petit. Mais l'idée, c'est aussi de comprendre du coup, qu'est-ce qu'un gladiateur ? Quels sont les indicateurs de performance du gladiateur ? Comment est-ce qu'on va aller identifier des joueurs avec ces indicateurs-là ? Comment est-ce qu'on va évaluer les formateurs ? Est-ce qu'on évalue un formateur, le responsable du centre de formation par exemple, si les joueurs gagnent dans l'équipe espoir ? Ou est-ce qu'on l'évalue sur le développement de ces critères du gladiateur ? Et donc tout ça, en fait, cette identité, elle nous pousse à repenser le modèle dont fonctionnent les clubs. Et c'est là-dessus que je les accompagne, sur cet aspect... stratégie de long terme, d'une part. C'est, on veut créer des gladiateurs, donc comment est-ce qu'on repense notre modèle pour qu'à terme, on ait toujours des gladiateurs ? Comment on rémunère un gladiateur aussi ? Parce que celui qui est le plus gladiateur, finalement, est-ce que c'est pas lui qui mérite le plus de salaire, puisqu'il représente le mieux sa communauté ? Donc ça, c'est un sujet. Et puis après, je les accompagne aussi sur beaucoup de sujets qui sont, par exemple, la structuration pure et dure. Si on prend l'exemple de la donnée, qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans les clubs, beaucoup de clubs ne sont pas comme Manchester City ou Chelsea ou Liverpool, ou tous les grands clubs anglais. Je pense que la majorité des clubs aujourd'hui ont vraiment du mal à utiliser leurs données. Donc moi, je les accompagne pour déjà, d'une part, prioriser qu'est-ce qu'on utilise comme outil et qu'est-ce qu'on veut sortir comme analyse, pour ensuite repenser leur modèle d'organisation. D'une part, on va les accompagner sur la création de bases de données, la consolidation de ces bases de données, pour exploiter avec un outil d'analyse, un BI par exemple, le maximum de toutes ces informations. Et puis encore, si vous voulez, il y a trois approches de la performance que j'ai. Pour moi, la performance se compose de trois piliers. C'est la performance identitaire dont j'ai parlé, la performance sportive, donc qui est un peu celle-là. Donc, par exemple, aussi comment exploiter au maximum son équipe. Je le vois beaucoup sur le rugby à 7 aujourd'hui, le basket 3-3. Je pense que c'est un peu les mêmes principes. C'est des sports qui se développent, qui ont des enjeux de performance sportive et qui, en plus de ça, sont un bon moyen de développer la marque auprès des jeunes, la marque du club, d'aller toucher de nouveaux partenaires, etc., d'avoir une autre identité, de voyager à l'international, tout ça. Donc, c'est là-dessus que j'accompagne aussi sur la création de ces projets-là. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Comment est-ce qu'on se structure par rapport à nos objectifs et comment on fait pour ne pas s'en écarter trop non plus ? Et puis le troisième sujet, il est évidemment financier. La performance d'un club, elle passe aussi par la performance financière. Alors, libre aux propriétaires des clubs de remettre de l'argent dedans, mais je pense que ça doit être une mesure exceptionnelle. Pour moi, un club, si on veut vraiment créer une communauté, elle n'a pas à reposer sur l'argent de quelqu'un en particulier. Soit c'est sur l'argent de tous, Et donc, à ce moment-là, un système de socios ou autre, c'est quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est quelque chose qui doit se subvenir lui-même et ne pas avoir à dépendre du bon vouloir d'une personne ou non. Et donc, j'aide vraiment les clubs à aussi travailler sur comment est-ce qu'on se diversifie, tout simplement. Comment est-ce qu'on améliore l'expérience client au stade? Comment est-ce qu'on améliore le merchandising? Comment est-ce qu'on va créer en fait des revenus différents? Et puis, je pense que c'est très lié à cet aspect identitaire dont je parlais au début. C'est que je définis mieux mon identité. Ça veut dire que je suis capable de définir quel est mon avantage concurrentiel sur les autres. Si je suis Toulon et que je vends des gladiateurs, Toulon, ce qu'ils font très bien, c'est par exemple, ils ont des entreprises de la défense. Égérie, par exemple, je pense, ils ont eu Naval Group pendant longtemps, qui sont partenaires du club parce que ça correspond à leur identité. Et donc, d'accord, souvent, les clubs ont du mal aussi à faire ce travail-là de dire mon identité, elle me permet d'aller chercher des nouveaux partenaires qui me correspondent.
Okay. J'aimerais revenir sur la notion de data que tu as évoquée précédemment. Et c'est une expertise que tu mets en avant à travers des articles aussi sur ton site internet. Mais aujourd'hui, à mon sens, il y a des sports qui sont plus propres à l'utilisation de la data. Mais pour toi, quels sont les enjeux de la data finalement dans le sport en général? J'imagine qu'il y a certains sports qui sont moins aptes à l'utilisation de la data. Comment tu vois ça? Parce que faut savoir aussi que l'utilisation de la data, c'est très américain aussi à la base. On le voit que ce soit dans le baseball, dans le football américain. Et comment tu perçois la data dans le sport en France?
Alors nous, déjà, il faut savoir que chez Six Sports Management, on part du principe que la data n'est en aucun cas un décideur. Okay. Ce n'est qu'un outil pour prendre des décisions. Donc en ce sens, avoir recours à la donnée, c'est nous accompagner dans comprendre si notre décision semble bonne ou mauvaise, ou à l'inverse, nous proposer en fait des nouvelles solutions. Je pense que aujourd'hui dans le sport français, l'utilisation de la donnée, elle est très restreinte à du concret. Ce que ne font pas les autres clubs, par exemple de première ligue, je vais m'expliquer, c'est que aujourd'hui, on a un analyse vidéo qui va analyser sa vidéo, sortir des données et dire très bien, pour ce samedi, je pense qu'il faudrait qu'on joue comme ci ou comme ça parce que l'adversaire fait ça ou parce qu'on a perdu tel joueur ou autre et puis on s'est rendu compte qu'on faisait trop de fautes sur ces phases de jeu-là, par exemple. Ou autre. L'analyste, en ce sens, il n'a pas un rôle de chercheur. Et ce rôle de chercheur, souvent, on le retrouve quand on a des clubs de sport qui sont structurés avec un département de la performance, d'analyse de la performance. Et dans ces départements, en fait, on a évidemment cet aspect analytique qui est important pour prendre des décisions pour le samedi, mais on a aussi des gens qui sont là pour faire de la prospective. Et donc pour se dire, on a toujours cherché telle réponse à tel problème dans telle approche de la donnée, ne serait-ce que l'impact d'un joueur sur le moral des autres. On n'a jamais pensé au fait que c'était peut-être lié à l'affluence du public. Okay. Et en fait, c'est quelque chose qui est important parce que cet aspect, c'est ceux qui ont ce rôle de chercheur, ils vont aller identifier des problématiques auxquelles personne n'a pensé et ils vont aller identifier des solutions aussi qui peuvent être différentes. Et je pense qu'en fait, ça, c'est ce qui est à la base de la donnée. En fait, l'arrivée de la donnée dans le sport, elle est liée avec les Oakland Athletics. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Le Stratège avec Brad Pitt, qui est un peu romancé. Je vous invite à lire le livre aussi, qui est très bien et peut-être un peu plus complet. Mais l'idée, c'est que à la base, des petits clubs comme les Oakland Athletics se sont dit on n'a pas les moyens de rivaliser avec les New York Yankees, qui ont 4,5 fois leur budget, je crois, à l'époque, donc au début des années 2000. Comment est-ce qu'on peut faire pour être compétitif, quoi? Et du coup, l'idée s'est dite de se dire, ok, on a aujourd'hui un accès vraiment aux data qui sont très intéressantes parce que dans le baseball, surtout, elles permettent de vraiment décortiquer le jeu. Comment est-ce qu'on va utiliser ces data pour identifier les joueurs qui sont sous-évalués par le marché et donc aller chercher un joueur qui vaut 4 fois moins que ce qu'il vaudrait en réalité parce qu'il a un petit défaut. Et ces joueurs, par exemple, c'est un joueur qui lance d'une manière bizarre, qui fait rire tout le monde, mais c'est un excellent joueur au lancer au baseball, par exemple. Et ce joueur-là, eux, ils vont aller le chercher pour 3 fois rien parce qu'aucune équipe ne veut de lui, puisqu'il ne correspond pas à ses critères d'image, mais pourtant, c'est un joueur très performant. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné à l'origine, c'était de se dire, les petites équipes utilisent la donnée pour rivaliser avec les autres qui ont quelque chose d'avantageux sur eux. Aujourd'hui, je pense que Les marchés se sont régulés grâce à l'utilisation de la donnée dans quasiment tous les clubs. Bon, après, certains marchés ne sont pas du tout liquides, comme celui des joueurs de baseball aux États-Unis. Je pense au rugby, par exemple, il y a très peu d'équipes de rugby et très peu de joueurs professionnels dans le monde entier. Hein. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les gros clubs qui ont les moyens d'investir dans la donnée et d'aller chercher cette addition des 0,1% que permet la donnée pour la performance. Donc en gros, dire, ben voilà, grâce à la donnée, on a pu identifier que tel joueur il se blessait de telle manière, ben il se blesse plus, on gagne 0,1% de performance sur l'année en fait au final. On peut se rendre compte que le ballon il est trop lourd parce que avec la donnée, on se rend compte que notre herbe elle est coupée du mauvais sens, et bien on va la couper dans l'autre sens et ça va nous faire gagner 0,1% de performance par exemple. Et donc ça, en fait, aujourd'hui, les gros clubs ont l'avantage grâce à la donnée, alors qu'à la base, la donnée est arrivée dans le sport pour l'inverse, quoi. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, les petits clubs, du coup, ont la vision de tout ce qui peut se faire avec la donnée. Donc aussi bien le recrutement en identifiant des joueurs sous-évalués, comme on le disait tout à l'heure, que améliorer ses performances en identifiant quels sont nos défauts, comprendre dans quelle mesure est-ce que les joueurs se blessent au quotidien ou autre. Et du coup... ils se disent, voilà, nous, on veut tout faire et il faut prioriser parce qu'ils n'ont pas les moyens de tout faire. Et donc, ça, c'est, je pense que c'est le plus gros sujet qu'il y a dans les clubs de sport aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas cette capacité à prioriser en fonction des ressources qu'ils ont. Et il faut prioriser, il faut comprendre que la donnée, elle a un vrai apport et que c'est pas à la portée de n'importe qui non plus, quoi. Il faut pas prendre un analyste vidéo qui a été formé à découper des vidéos pour analyser des matchs, pour analyser des bases de données. Peut-être qu'il est très bon du point de vue sportif, mais il est pas forcément très bon pour créer des statistiques, pour comprendre à partir de quel moment en fait est-ce que les statistiques sont viables d'un point de vue tout simplement statistique, parce qu'il y a assez d'échantillons assez gros ou non. Donc voilà, je pense que le sujet il est principalement là-dedans, c'est que il y a des très grands clubs qui font des très grandes choses, qui utilisent la donnée pour plein de choses et c'est vraiment génial. Mais les petits clubs ne peuvent pas rivaliser là-dessus et il faut qu'ils l'acceptent et qu'ils se structurent pour en tirer le maximum des ressources qu'ils ont aujourd'hui.
Ok. Je vais te demander de conclure en nous parlant de tes futurs projets, tes futurs objectifs.
Oui, nous, chez Six Sports Management, on est vraiment ouvert à discuter avec beaucoup de clubs pour réfléchir d'une part à leurs problématiques de structuration et d'une autre à tous ces sujets identitaires qui ont un impact en fait sur leur utilisation quotidienne sur le long terme. Donc ça, nous, on serait ravis d'échanger avec vous et je pense que d'un point de vue excitation, j'ai très hâte d'être le 17 et 18 mai parce que je pense que voilà, les journées de l'héritage sportif vont vraiment vraiment ramener beaucoup de monde. Ça va être une belle fête. J'espère que beaucoup d'entreprises vont répondre à l'appel pour que beaucoup d'étudiants puissent trouver leur stage ou beaucoup de demandeurs d'emploi trouvent un emploi. Et puis je pense que voilà, il y aura plein d'activités à faire. Il faut venir en famille parce que le sport, c'est un moyen de partager des choses. Souvent, avec ses enfants ou ses parents, on ne partage pas tout parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais je pense que faire de l'activité physique ensemble, c'est toujours un centre d'intérêt possible. Je vous invite à nous rejoindre sur ces journées-là. Donc, ce sera au Grand Palais éphémère à Paris.
On espère aussi que ce sera grandiose et on invite tout le monde à venir également. Merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et on se retrouve pour un prochain numéro du Business Club. À bientôt.